Good morning, Amber. It's time for Drug and Roll.
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 Oh, yeah. Drug and Roll.
L'émission stupéfiante sur la fusion de la musique et des consommations de drogue.
Là, on m'entend. Bonjour tout le monde, quelle entrée.
Bonjour Jérémy.
Bienvenue sur Drug and Roll pour la 3e édition. Alors, je vois aujourd'hui, il y a du monde sur la table. Ça va Mireille?
Très bien, très bien.
Bon, alors tu nous as ramené du beau monde?
Bah, bien sûr, voilà. Donc, cette émission va être consacrée au Jazz New Orleans. Et donc, pour ça, on a affaire à des spécialistes. Voilà, donc on a Gérard Deloup aujourd'hui.
Le nouveau?
Voilà, le petit nouveau d'aujourd'hui.
Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'il vient faire, Gérard? Qu'est-ce que tu viens faire, Gérard?
Ben, je viens parler du jazz traditionnel. Voilà, je suis musicien, on va dire, peut-être un peu plus qu'amateur.
Très bien.
Et puis, voilà, disons que c'est ma musique préférée, c'est quand même le jazz traditionnel.
Bien.
Dit New Orleans.
D'accord, oui. Donc tu viens nous amener toutes ces petites anecdotes sur cette musique. Donc tu viens piquer la place à Jean, en fait?
Ben, peut-être un peu. On va voir, on peut discuter ensemble.
Qui est présent quand même. Bonjour Jean, comment vas-tu?
Bonjour Jérémy. Ben, c'est très bien, comme ça, ça va me faire un petit peu de vacances. C'est lui qui va parler. Ma place, c'est parfait. Mais je suis là, je surveille, attention.
Bon, très bien. On a Florence.
Oui, toujours.
Bonjour. Que viens-tu faire dans notre émission, Florence?
Et ben moi, je suis toujours éducatrice, toujours à l'ADISA, l'Association départementale d'insertion santé et soins des addictions. Et donc, je viens relayer sur les mouvements de consommation de produits autour, là, entre autres, du jazz du New Orleans. Voilà.
D'accord. Et nous avons Jean-Paul.
Bonjour.
Jean-Paul, qui est notre fidèle chroniqueur.
Exactement.
De l'émission.
Oui.
Donc, ton rôle, Jean-Paul, d'amener un petit complément,
petite chronique,
des extraits de films ou de textes, et c'est toi qui les mets
en valeur.
J'essaie.
Ça marche.
Voilà. Il nous fait des petites surprises à chaque fois, c'est bien.
Très bien. Donc du coup, on rappelle Mireille le concept de l'émission.
Alors le concept de l'émission, c'est de par rapport aux différents styles de musique depuis le début, même la fin du 19e siècle, c'est de faire un parallèle entre l'évolution de la musique et les consommations de drogue.
D'accord, c'est pour ça que nous avons...
Voilà, autant d'invités.
Très très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se propose un petit morceau pour se mettre
en jambes? C'est Gérard qui a fait la sélection des morceaux pour cette émission aujourd'hui. Moi, j'en ai rajouté un ou deux, juste pour l'anecdote. Et donc, Gérard, tu vas nous présenter le premier morceau.
Oui, avec plaisir. Donc, le premier morceau, on va prendre un incontournable du jazz traditionnel et de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire Louis Armstrong. Et un incontournable aussi de ses morceaux, puisque c'est vraiment... on va retrouver Louis Armstrong au meilleur de sa forme, dans Cornet Chop Suey, voilà.
D'accord. Eh ben alors, on s'écoute ça. Nickel.
Thank you.
Voilà, donc c'était Cornish Hopsway de Louis Armstrong. Alors le jazz New Orleans, bah, il vient, le nom hein, vient de la Nouvelle-Orléans, donc qui était un état, enfin une ville de Louisiane, donc un état du sud des États-Unis. Ah, et c'est donc là, au début du XXe siècle, hein, que naquirent deux modes hein, inextricablement liés, qui ensemble marquèrent l'histoire de l'Amérique moderne, c'est-à-dire la marijuana et le jazz. Hein. Alors dans le quartier chaud, hein, Storyville de la Nouvelle-Orléans, voilà. À Storyville, c'est le quartier chaud le plus réputé d'Amérique, où Louis Armstrong vit le jour en 1901. Et c'était les seuls endroits où l'on pouvait écouter tous les nouveaux brass bands. Hein. Et voilà, donc mon explication n'est pas très claire.
Un brass band, c'est quoi un brass band ?
Alors Gérard, tu peux nous dire ce que c'est qu'un brass band ?
Un brass band, ben, brass ça veut dire cuivre, donc c'est tout simplement des orchestres de cuivre hein, qui jouaient dans les rues et aussi dans les lieux un peu chauds comme bien. Comme vient de l'écrire Mireille.
D'accord. Quand tu faisais ta présentation, tu disais que tu étais toi-même musicien. Tu joues oui, du cuivre aussi, d'un instrument
non,
en cuivre
Non, pas de cuivre, je joue du washboard Oula. Et du piano.
Qu'est-ce que le voilà. Washboard c'est un truc de racaille ou
non,
on dit
non,
washboard
non, enfin, peut-être, je sais pas, mais... Non, le washboard, c'est tout simplement, en traduction littérale, c'est la planche à laver. C'est-à-dire que à cette époque, justement, où les musiciens noirs voulaient se mettre à la musique et n'avaient pas, évidemment, les moyens de s'acheter des instruments... voilà, ils faisaient de la musique avec un peu tout ce qu'ils trouvaient sur place. Et à l'époque, eh ben, on lavait le linge avec des planches à laver.
D'accord.
Donc, ils ont eu l'idée de gratter là-dessus avec des dés à coudre pour remplacer la batterie, finalement. Voilà.
D'accord. Très,
voilà,
très
et bien. Le piano, tout le monde sait ce que c'est, je ne décris pas.
Oui.
Et alors, Jean, lui, par contre, fait partie des cuivres, puisqu'il jouait comment, du sous-bassophone et du trombone.
D'accord. Tu as ces compétences-là, toi, Jean ?
Et oui. Enfin,
très, très bien.
Alors là, je vais juste donner une petite définition du mot jazz. Alors en fait, il y a trois définitions différentes. Alors le jazz pourrait être, viendrait du mot jasme, qui est un vocable argotique qui désigne le sperme, hein, donc la semence ou encore l'esprit d'énergie. Alors là, l'autre définition, on pense que c'est peut-être une déformation du créole des mots français jaser ou chasser. Et la dernière définition, ça viendrait de l'huile de jasmin, le parfum français que les prostituées de Storyville, du quartier donc de la Nouvelle-Orléans, aimaient porter. Donc
c'est nous qui choisissons la version qu'on veut.
Voilà, c'est ça. Alors je pense qu'il y a peut-être un mélange un peu des trois. En tout cas, c'est sûr que ça vient de la Nouvelle-Orléans. Donc, Gérard, lui, fait partie d'un groupe hein, qui s'appelle les Saints of New Orleans. Et peut-être tu peux nous dire quelques mots sur ton groupe et puis un peu sur l'historique, s'il te plaît.
Oui, tout à fait. Donc, à vrai dire, je fais partie de plusieurs groupes hein, qui s'appellent justement les Saints of New Orleans, donc les Saints de la Nouvelle-Orléans. On n'a peur de rien. Et voilà, donc un orchestre constitué vraiment typiquement Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire avec trompette, clarinette, des fois trombone aussi, donc les trois instruments soufflants devant et derrière une rythmique piano et sous-bassophone. Donc le sous-bassophone étant très souvent appelé le tuba, hein, le sous-bassophone étant une version voilà, de tuba, plus, disons, plus faite pour être transportée et pour défiler dans la rue.
Voilà. Donc c'est une formation classique, c'est-à-dire que s'il y a cette formation, on dit que c'est du style Nouvelle-Orléans, c'est ça ?
En général, oui. Trois soufflants, c'est-à-dire clarinette, trompette, trombone, et derrière une rythmique à laquelle peut souvent s'ajouter le banjo. Mais des fois, il y a le banjo, il n'y a pas de piano, des fois, il y a le piano, il n'y a pas le banjo, des fois, il y a les deux ensemble.
Voilà. D'accord.
Mais voilà, donc... Et puis, ben, des fois aussi, un batteur ou un washboard, justement.
Qui fait la rythmique.
Voilà, donc ça, c'est un orchestre d'Évreux, d'ailleurs, voilà, tout simplement. Et puis, je joue aussi du washboard dans un autre groupe qui est plutôt de Seine-Maritime. Voilà.
Très bien.
Qui s'appelle les Dixie Fellows.
Qu'on s'écoutera tout à l'heure, j'ai vu ça dans la programmation. On va vous passer un petit morceau. Mm-hmm. Très, très bien, on écoutera ça. Est-ce qu'on s'écoute un petit morceau, là, du coup ?
Mireille voulait que je présente un petit peu comment était né le jazz, donc je veux bien faire ça maintenant.
Ah bah alors, on y va, bien sûr.
Voilà. Donc, comme Mireille le disait tout à l'heure déjà, donc, tout est né à la Nouvelle-Orléans, hein, donc la ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Et pourquoi c'est né là? C'est évidemment un mélange un peu complexe, mais on va essayer de synthétiser tout ça pour aller être un peu plus clair et un peu plus voilà, rapide. Ce qui se passe, c'est que c'est très cosmopolite, la Nouvelle-Orléans. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent de partout. Mais évidemment, il y a deux cultures vraiment fondamentales qui se rencontrent à la Nouvelle-Orléans. C'est la culture noire, hein, celle qui vient d'Afrique. Il y a un moment d'Afrique, hein, puisque à l'époque là dont on parle, c'est plutôt les descendants des esclaves, hein, qui sont là. Mais ils sont bien là, quoi. Et il y a la culture blanche, hein, qui est plutôt représentée dans certains quartiers par la France, dans d'autres par les Anglais. Hein, enfin, mais en tout cas... Il y a les blancs et les noirs, c'est ce qu'il faut retenir principalement à la Nouvelle-Orléans. Et donc c'est ce mélange des deux cultures qui va donner naissance au jazz, puisque les blancs, eux, font la musique bah, qu'en France on connaît un petit peu plus que la musique africaine. À cette époque-là, il y a beaucoup de musique militaire dans les rues. Il y a aussi la musique, disons, des harmonies. Enfin, les harmonies, comme les harmonies municipales, on voit ici encore, assez peu maintenant d'ailleurs, mais on en voit quand même encore un petit peu. Donc pareil, avec des cuivres, avec tout un tas de choses comme ça. Et les Noirs, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent cette musique-là aussi. Et puis, ils ont aussi envie de la jouer. Et ils ont aussi envie de jouer des instruments que jouent les Blancs. Voilà, de s'emparer un peu de leurs instruments, qu'ils connaissent très peu, finalement.
Donc ça va être un mix de...
Voilà, ça va être un mix de tout ça. Donc, on connaît déjà... les Noirs ont leur spécificité dans leur coin. Donc, ils ont des chants de travail, hein, issus de l'esclavage. Ils ont le gospel qu'ils vont chanter dans les églises. Ils ont le blues, déjà, hein, qui commence à... C'est déjà un petit emprunt à la musique occidentale, on va dire, parce qu'il y a déjà trois accords, c'est déjà bien carré, tout ça. Et puis donc ils commencent à créer des petits orchestres dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, qu'on appelle des jug bands. C'est des orchestres constitués de musiciens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des instruments, donc ils vont taper un petit peu partout. Ils créent des instruments avec des carafes à whisky, avec des planches à laver comme on disait tout à l'heure. Voilà, le banjo il est comme ça aussi, une espèce de mélange de tambour et de guitare qui ressemble beaucoup à certains instruments africains. Et voilà, donc ça joue un peu dans les rues comme ça, avec des instruments improvisés. Et puis ensuite, ils commencent à prendre les instruments occidentaux, hein, c'est-à-dire trompette, voilà, clarinette, les tambours, etc. Voilà, qui ont été laissés en général par les militaires. Et donc, ils ont ça pour pas cher du tout, puisque les militaires ont laissé tout ça à la fin de la guerre de sécession. Et puis, ils commencent à jouer, et c'est ce qu'on appelle les marching bands, hein, ou brass bands, comme on disait tout à l'heure. Donc, on commence à avoir des cuivres, des noirs, qui prennent des cuivres et qui jouent dans les rues. Et ils essaient de finalement jouer la musique des Blancs, c'est-à-dire les espèces de polka ou des marches qu'on entendait à cette époque-là.
D'accord.
Mais avec leur culture à eux, c'est-à-dire le rythme qui vient d'Afrique, hein, qui est ancré en eux fortement, culturellement, et aussi des gammes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Hein. Nous, on a des gammes bien définies qui viennent du classique et qui viennent de la musique populaire, mais qui sont bien définies, assez sages. Eux, ils ont d'autres gammes dans l'oreille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, en tout cas, sur ces instruments qu'ils ont pris, instruments des Blancs, ils vont essayer de reproduire les gammes africaines, ce qui va donner naissance à des notes qu'on n'avait jamais entendues dans la musique avant, dans la musique occidentale. Pour citer un exemple, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en musique, on va par exemple voir apparaître des notes mineures, c'est-à-dire des tierces mineures, sur des accords majeurs, ce qu'on n'avait jamais entendu avant. Et c'est ce qu'on va appeler les blue notes, c'est-à-dire les notes du blues finalement, hein, et qui vont... Voilà, qui vont perdurer dans le jazz et jusqu'à notre époque. Hein, les blue notes, maintenant, il y en a partout dans toute la musique populaire. Et, voilà. Donc voilà, là, on comprend bien le mélange de cultures. Donc on retrouve le rythme, la syncope, hein, les gammes différentes, donc les blue notes. Et puis une chose aussi, toute simple, et voilà, qui est assez peu pratiquée dans la musique occidentale, c'est que les Noirs n'ont pas appris la musique, hein, évidemment, pas de conservatoire, pas de cours de musique, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont improviser, tout simplement.
Autodidacte.
Ils improvisent, autodidacte totalement. Donc, on improvise la musique. Hein, on prend des instruments, on l'improvise.
Puis tout et, à l'oreille, vu que s'ils se servaient de la musique des Blancs, du coup...
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Donc, tout à l'oreille. Donc, ils essaient de reproduire ces espèces de marches, ils entendent les polkas, la musique des Blancs, mais ils font tout à l'oreille, en y ajoutant le rythme, en y ajoutant des blue notes. Et voilà, c'est ce qui va finalement donner le jazz et les premiers marching bands et brass bands qui vont jouer à la Nouvelle-Orléans.
D'accord. Gérard, voilà. Je t'arrête dans ta, dans tes explications. Est-ce qu'on peut s'écouter un petit morceau pour reprendre juste après?
Tout à fait.
Bon, bah c'est super. Et du coup, j'avais pas fait le rapprochement, mais du coup, on va s'écouter Saint of Orléans, qui est ton groupe.
Oui,
c'est
tout
ça
à fait.
Bon, est-ce que il y a un petit commentaire dessus?
Non, non, non. C'est on va écouter plutôt un morceau qui s'appelle Just a Closer Walk. Donc with the même, parce que là on n'a pas le titre en entier sur la petite fiche, qui veut dire finalement juste un petit juste une petite balade avec avec Dieu. Donc c'est au départ un gospel, hein, qui a été repris parce que comme je disais à la Nouvelle-Orléans. Les musiques se mélangent énormément. On retrouve du gospel, du ragtime et tout ça. On va en parler tout à l'heure, mais tout ça se mélange. C'est très difficile de scinder les choses. Tout est vraiment mélangé. Et là, donc, c'est un gospel, mais qui va être joué, voilà, à la manière de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire clarinette, trompette, et la rythmique derrière. Voilà.
Très très bien. Bon, bah vous êtes dans Drogue and Roll toujours sur Principe Actif, puis vous allez marcher avec Dieu. C'est pas beau ça?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 1919, va apparaître donc la, ce qu'on appelle la prohibition, hein, c'est-à-dire l'interdiction de la vente d'alcool dans les bars, qui va fermer évidemment tous les bars et les cabarets légaux. Alors évidemment, en contrepartie, il y en a tout un tas d'autres qui vont s'ouvrir, qui vont être illégaux. Et peut-être Florence va pouvoir nous parler un petit peu de cette période-là. Alors juste un petit rappel, c'est que cette prohibition, elle a été lancée un peu suite à l'apparition du livre de Jack London, Le cabaret de la dernière chance, hein, où il parlait de ses problèmes d'alcool et tout ça. Et donc les ligues féministes surtout, hein, se sont accaparées de ça pour en profiter pour interdire l'alcool partout.
Alors ouais, en effet, on parle de première ligue de tempérance, hein, par rapport à l'usage de l'alcool, et qui était soutenue par les pasteurs et les femmes, hein, qui associent... alors les pasteurs, c'était dans une volonté de moraliser la vie des plus pauvres, et puis les femmes, ça, elles associent alcoolisme et violence conjugale. Hein, donc voilà. Alors, à savoir que l'alcool a souvent un lien quand même avec la violence en général. Quoi. Alors donc, dès 1916, la prohibition faisait déjà partie de la législation dans 26 des 48 États composant les États-Unis. Donc ça avait bien avancé. Hein. En 1917, on apparaît le Volstead Act, qui interdit la fabrication, la vente et le transport des boissons qui contenaient plus de 5% d'alcool, en fait. Donc voilà, la consommation d'alcool n'était toujours pas interdite, mais elle commençait à être de plus en plus légiférée et à se durcir. Et puis ça, donc du coup, ça, cette loi-là a entraîné un grand marché potentiel, hein, et donc on a commencé à voir apparaître de plus en plus d'alcool frelaté, etc., hein, avec une augmentation aussi de la demande, de toute façon, quoi, et de la consommation. Alors, donc, ce qui a entraîné en fait une destruction massive de matériel de distillerie ou de brasserie, hein, et notamment aussi des bars et des lieux de fête légaux. En fait, les populations urbaines, elles résistent à l'interdiction de l'alcool. Et à New York, par exemple, on compte plusieurs dizaines de milliers de speakeasy. Alors les speakeasy, en fait, l'origine vient d'une vieille Irlandaise, hein, qui vendait des liqueurs qu'elle préparait sans licence, et elle demandait à ses clients de baisser la voix, hein, pour commander ces liqueurs-là, en fait. Donc les speakeasy apparaissent et deviennent très très populaires. Alors la particularité, pardon, des speakeasy, c'est que c'est cool l'alcool à flot, hein, et puis ce sont des lieux où on fait autant la fête, où on joue, où il y a des concerts, enfin voilà.
Voilà, hein, ce qui va permettre à tout un tas de groupes de musiciens de pouvoir jouer dans ces endroits-là.
De ce que tu décris, ça ressemble quand même à des bars classiques, mm-hmm, comme chez nous on a, non?
Voilà, ça. Alors on voit ça souvent dans les films, je sais pas si certains ont vu certains lame shows par exemple, hein, où on voit les musiciens, là c'est Jack Lemmon et Tony Curtis, hein, qui jouent voilà dans des cabarets. Alors c'est au fond des pompes funèbres, voilà,
au fond des rues, dans les caves,
hein, okay, voilà,
et donc ils jouent, et donc c'était le plein essor de la mafia, hein, et c'est la mafia qui contrôlait la plupart de ces speakeasy,
voilà, avec une police qui était qui contribuait aussi, hein, qui faisait des descentes régulièrement, mais qui touchait aussi des pots de vin par rapport à l'existence de ces bars là, en fait, hein.
Okay.
Donc, voilà. Alors, faut savoir que ils s'organisaient, hein, dans les caves souvent, hein, et puis en fait, il y avait plein de passages souterrains, ce qui fait que ça permettait aux personnes de partir très très vite, mais ça permettait aussi d'amener l'alcool en fait frelaté. Voilà.
Bien. très bien pour ces éclairages.
Oui. Alors, il faut savoir qu'à la même époque, du coup, ils ont fait tout un tas de films de propagande, hein, contre, bien sûr, l'alcool, mais aussi contre la marijuana, qui commençait aussi à prendre les consommations de marijuana commençaient à prendre des proportions importantes. Et tout ça était lié au jazz, parce qu'au départ, c'est vraiment les musiciens de jazz, hein, qui consommaient la marijuana. Hein, donc, et donc, du coup, il y avait toute une propagande anti-musicien et anti-marijuana.
C'est eux qui devaient être stigmatisés, qui ramenaient les produits. Et
exactement.
D'accord, ok.
Donc, Gérard, peut-être tu peux nous parler après un petit peu des autres styles de jazz New Orleans.
Oui, tout à fait. Donc, Donc je vous ai parlé tout à l'heure du style Nouvelle-Orléans. Vraiment, on a parlé de la naissance hein, du jazz, comment il était né. Ensuite, à la Nouvelle-Orléans, bah, évidemment, on entendait de la musique un petit peu partout, hein, toujours dans les lieux qu'on vient de décrire là, et dehors aussi. Et il y avait finalement plusieurs styles. Hein. Je vais essayer d'être synthétique parce que finalement, il y a quasiment autant de styles de jazz qu'il y a de musiciens, mais bon, on essaie quand même de faire des petits... Voilà, ça, c'est l'esprit assez cartésien et occidental de toujours bien mettre les choses dans des cases. À la Nouvelle-Orléans, on entendait des pianistes, hein, plutôt dans la bourgeoisie, d'ailleurs. C'était finalement les premiers Noirs un petit peu embourgeoisés qui étaient... Voilà, on acceptait de les regarder presque, on acceptait de les inviter parce qu'ils étaient musiciens et parce qu'ils avaient appris la musique, eux. Donc, quand on dit appris, c'est à la manière occidentale, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des cours de piano, etc. Et ces premiers musiciens, comme ça, jouent une musique qui n'est plus très populaire maintenant. On l'a entendu dans quelques films, par exemple Arnaque, qui a fait un tabac sur le sujet. Mais cette musique s'appelle le ragtime, qui est une musique au piano, hein, très souvent uniquement au piano, et qui est finalement une musique écrite par un noir à l'époque, c'est-à-dire composée par un noir, hein, qui écrit des partitions de piano. Faut se dire aussi qu'à cette époque-là, toute fille bien élevée dans la bourgeoisie apprenait le piano, il y avait des pianos partout, dans toutes les familles bourgeoises, et on jouait toujours la musique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire... des Scottish, des trucs comme ça. Enfin, et puis sont apparus ces compositeurs noirs qui ont composé des musiques un peu plus syncopées que, toujours pour les mêmes raisons expliquées tout à l'heure, leurs origines. Donc une musique un petit peu plus syncopée, hein, ragtime, qui veut dire le temps haché, hein, le temps découpé. Voilà. Et donc ils ont composé ces morceaux au piano qui étaient repris par les blancs et les jeunes filles bien élevées qui jouaient ce ragtime à la Nouvelle-Orléans. Mais ce ragtime se jouait aussi, pareil, dans les bars. Et puis, donc, cette école-là de piano a donné naissance à tout un tas de pianistes qui ont joué après le style de la Nouvelle-Orléans, parce qu'ils ont une manière très, très particulière de jouer de la main gauche du piano, qui est assez... il faut beaucoup de dextérité. Et on fait une pompe, finalement, c'est-à-dire qu'on joue des basses, des accords, et la main droite ne fait que jouer de la mélodie et improviser. Voilà, donc le ragtime a été repris par les pianistes de la Nouvelle-Orléans. Et dans les orchestres de la Nouvelle-Orléans, on joue à la manière du ragtime, on va dire, du piano.
Essentiellement, d'accord.
Voilà. On a le blues, hein, le blues dont on a, je crois qu'il y a eu une émission déjà.
Voilà, on a déjà eu.
cette musique, on l'entend partout aussi à la Nouvelle-Orléans. Par des pianistes.
Excuse-moi de te couper, est-ce qu'on peut dire que, je crois qu'on l'a dit un peu tout à l'heure, la Nouvelle-Orléans, c'est un peu une aparté, je dirais, du blues, ou comment ça se situe comparé au blues, en fait?
C'est pas une aparté, la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment la plaque tournante, c'est-à-dire que ça réunit tout le monde, quoi. Le blues, ça a été rural d'abord, avec des gens qui chantaient avec une guitare, très souvent désaccordée, ou avec trois cordes au lieu de... après, ce blues a été repris à la Nouvelle-Orléans et est devenu une des composantes du jazz. C'est pas la seule,
c'en est une. D'accord.
Voilà. Et ce blues, reprise par les pianistes, pareil, dans les bars, a été aussi accéléré, hein, dans le tempo, qui a donné naissance au boogie, qu'on appelle le boogie-woogie.
D'accord.
J'ai pas de piano, sinon je vous aurais montré comment ça fait, mais. Et évidemment, il y avait aussi le gospel qu'on entendait dans les églises, hein, chanté par les Noirs. Donc tout ça s'est un peu mélangé, hein, toujours le melting pot de la Nouvelle-Orléans. Donc le ragtime, il a vraiment influencé les pianistes, hein, jusqu'à très tard, jusque dans les années 50. Hein, on jouait du piano avec cette main gauche assez particulière. Mais comme c'est une musique écrite, le ragtime, ça reste le ragtime, donc on n'y touche pas. On peut acheter les partitions, on le joue, et puis voilà. Le New Orleans, lui, il a évolué. Finalement, il s'est propagé dans toutes les villes des États-Unis, hein, aux endroits où il y avait de l'argent à prendre, et où il y avait des bars, et où il y avait tout un tas d'endroits pour jouer. Donc il s'est propagé un petit peu partout, c'était la musique en vogue. Et finalement, il y a autant de styles de jazz... qu'il y a de villes aux États-Unis, et qu'il y a de musiciens, on va dire. Chaque musicien a apporté sa petite pierre à l'édifice du jazz. Voilà. Et puis, c'est ce jeu de batterie très particulier à Nouvelle-Orléans, au défilé, etc., a aussi donné naissance à tout un tas de musiques maintenant, jusqu'à même le rhythm and blues et la soul musique sont vraiment issus de la Nouvelle-Orléans, du rythme très particulier de la Nouvelle-Orléans. Voilà.
Très, très bien.
Et puis le boogie en lui-même, ce que je disais tout à l'heure, le boogie, c'était le blues rapide, lui donnera naissance finalement au rock'n'roll, tout simplement.
D'accord. Tout ce que tu dis là, nous, on va le représenter effectivement dans des émissions.
Oui.
On va se le garder pour les émissions.
Okay, j'en dis pas plus.
Voilà.
Mais au moins, vous verrez d'où ça vient, quoi.
Mais on voit qu'il y a des liens et que tout est parti de là-bas, du coup.
Tout est parti de là-bas.
D'accord. Voilà. Mireille, est-ce qu'on continue par nos époques? Est-ce que je peux rappeler aux auditeurs qu'on est quand même sur Principe Actif, qu'on est dans l'émission Drug and Roll, voilà, ce parallèle entre la musique, l'historique des genres, des styles musicaux et les consommations de drogue, voilà, à travers les époques.
Voilà, et donc là peut-être on va écouter deux petits extraits de morceaux parce que voilà, le temps passe. Donc juste un petit morceau de Scott Joplin, là, Maple Leaf Rag, et voilà, pour se rendre compte de ce que c'est qu'un ragtime. Et puis
voilà, Scott Joplin, hein, le représentant vraiment le plus connu du style ragtime, quoi.
Voilà.
Compositeur.
Et puis on continuera par Jerry Roll Morton, pardon, avec Dr. Jazz.
Très très bien.
Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, hein, Scott Joplin, il est mort de la syphilis à 50 ans, à savoir qu'à l'époque, évidemment, c'était une maladie qu'on ne pouvait pas soigner, enfin, qu'on ne savait pas soigner. Il n'y avait pas les antibiotiques. Donc, et que Jerry Roll Morton, donc on va écouter un petit peu plus tard, alors, comment... Lui, il était un grand musicien de jazz, mais aussi, il était proxénète, hein, joueur, il jouait aux cartes, au billard. Et il est mort hein, de ses divers excès d'alcool et de tabac, entre autres. Hein. Donc là, après, pour avancer peut-être un petit peu, comment on va... ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, c'était la révolution mexicaine aussi. Et donc, comment... Il y a tout un lot comment d'émigrés mexicains qui sont arrivés jusqu'à la Nouvelle-Orléans et ils sont arrivés avec dans leur bagage la marijuana hein. Et donc ce sont eux les Mexicains qui furent accusés d'avoir introduit cette drogue en Amérique, mais sachant que ça poussait quand même déjà à l'état naturel même sur les bords du Mississippi. Et bien sûr, comme les musiciens furent les premiers consommateurs, c'est ceux, eux, hein, qui furent désignés porteurs de la peste et responsables de cette propagation, voilà, qui bien sûr allait toucher aussi les gamins blancs, bien propres sur eux, aux États-Unis. Hein. Donc voilà. Alors Florence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la marijuana?
Alors, les premières années du XXe siècle hein, furent les années de diabolisation de la marijuana, pardon, du cannabis. Donc Mireille a expliqué hein, que la vaste campagne prohibitionniste prend naissance aussi sur fond de racisme hein, contre l'immigration mexicaine et puis toujours les Noirs qui, de toute façon, ont toujours subi cette vague-là. Quoi.
Ils ont le bon dos, je crois, les communautés.
Donc, voilà. Donc, le cannabis était désigné comme une influence insidieuse hein, qui poussait les Noirs à penser comme les Blancs. Alors ça, c'était extraordinaire quand même. Et puis, quant aux Mexicains, sous l'influence du cannabis, hein, ils osaient regarder les femmes, les blanches notamment. Donc la presse à sensation hein, a mené toute une campagne de propagande et de terreur pour mettre le cannabis hors de la loi et fortement portée par Harry J. Anslinger, qui était à l'époque au directeur du bureau des stupéfiants hein, jusqu'en 62 et qui a alimenté la presse nationale en une histoire comme ça, sadique et sanglante. Avec des connotations racistes et qui démontrait l'extrême danger du cannabis. Donc toute cette propagande, elle a abouti en 1937 à l'adoption d'une loi, la Marijuana Tax Law, qui en fait a interdit définitivement l'utilisation du cannabis et sa consommation, évidemment. Et qui a été relayée après, qui est venue remplacer donc celle de la prohibition de l'alcool qui s'est arrêtée en 1933. Hein, et puis cette politique prohibitionniste du cannabis a été relayée en France aussi, évidemment. Alors, quand on parle de cannabis, de marijuana, hein, c'est la même chose, c'est issu d'une même plante qui s'appelle le chanvre, qui est connue pour ses multiples utilisations, autant pour des fabrications de tissus, on en entend beaucoup parler actuellement aussi pour tout ce qui est isolation, tous les produits cosmétiques, etc. C'est une plante qui est très, très ancienne. Et qui remonte, dont les traces remontent au néolithique, hein, qui était déjà désigné comme plante magique aussi. Donc, dans le chanvre, il y a différents types de chanvre. Et là, celui qui nous intéresse, hein, qu'on appelle le marijuana et le cannabis, en fait, c'est celui qui comporte un taux de THC, le tétrahydrocannabinol, et donc qui est le principe actif du cannabis. Hein. Et qui va avoir des effets variables suivant le mode de consommation, ses teneurs en THC évidemment, et puis suivant la dose, la quantité hein, consommée, et puis suivant l'état de la personne qui va le consommer. Donc les effets vont de, c'est une plante, enfin les effets sont essentiellement anxiolytiques hein, avec un sentiment d'apaisement, plaisir, détente, désinhibition. L'endormissement, l'augmentation de l'appétit, augmentation des sens, notamment autour du son et de la vision, avec une euphorie parfois, et puis une diminution de la vigilance pardon, et de la concentration et de la mémoire à court terme aussi. Voilà. Le cannabis, il est essentiellement consommé sous forme de pétard ou hein, de joint. Voilà. Et donc, il est souvent mélangé au tabac aussi. Donc, il se présente sous différentes formes. Donc, la marijuana, hein, ce qu'on appelle aussi l'herbe, qui sont les fleurs séchées qui présentent à peu près 5 à 15% de THC. L'huile de cannabis qui est moins courante, qui est extraite à partir de solvants. Et puis le pollen, hein, qui est donc obtenu à partir de où on bat en fait les fleurs de cannabis et que la poudre récupérée est ensuite compactée, ça donne le hashish.
Bien. Et ça, c'est de la manière dont ça se consommait à l'époque.
Aussi,
Qui est semblable à nos pratiques.
C'était plus la marijuana
aux États-Unis. C'était plus la marijuana, donc les feuilles séchées. Alors qu'il y avait tout un tas de noms différents, parce que c'était aussi bien appelé moguls, mata, gedge, tea, reefer, griffal, marijuana, marijane ou la rosa maria. Enfin, il y avait plein de noms différents.
Pour la vente ou pour...
C'était les noms différents.
Pour blouser un peu la police
Et donc, on va retrouver tous ces noms-là dans différents titres de chansons et qui vont être... Alors savoir que évidemment cette consommation de marijuana était intimement liée à la musique de jazz, et donc il y a eu des tentatives aussi pour interdire le jazz dans les lieux d'amusement public, parce que c'était une incitation en fait à la consommation de ces produits-là. Alors on a Louis Armstrong qui était un grand consommateur de marijuana Alors, pour introduire un peu Louis Armstrong, on va juste passer un petit morceau, un extrait de la cucaracha. Alors, la cucaracha, tout le monde connaît cette musique-là. Et en fait, c'est l'histoire d'un cafard. Alors, le cafard, en fait, c'est un soldat de la même mexicaine qui pouvait plus avancer parce que il n'avait plus de marijuana à fumer. Et donc, en fait, peu de gens en fait connaissent les paroles de ce que veulent dire les paroles de la chanson. Et ça n'aurait peut-être pas eu un succès aussi important avait vraiment connu les paroles. Voilà. Et peut-être après, on enchaînera directement avec King Oliver, qui lui aussi, il consommait un peu, mais pas tant que ça. Mais il était surtout un gros mangeur, lui connu pour être un gros mangeur.
Bon, ça va, c'est une bonne drogue. Voilà. Bon, on s'écoute Louis Armstrong alors.
Voilà, Louis Armstrong et King Oliver après.
Sing no matter where you are, Nicaragua, Nicaragua, say it on your guitar, Nicaragua, Nicaragua, sing no matter where you are, Nicaragua, Nicaragua, say it on your guitar,
Good morning, Everett. Time for Drug and Roll.
Drug and Roll.
Drug and Roll.
Drug and Roll.
Drag and Roll.
Oh yeah, Drug and Roll.
L'émission stupéfiante sur la fusion de la musique et des consommations de drogue.
Thank you.
Voilà, donc là, on vient d'écouter un morceau de King Oliver, hein, Dapper Moss Blues. Et donc, avant, on avait entendu un extrait de la Cucaracha, hein, avec, bien sûr, Louis Armstrong à la trompette et au chant. Alors, Jean, excuse-moi, Gérard...
Question d'habitude.
Nous parler un petit peu d'Armstrong, quoi, qui était quand même un géant là, de New Orleans.
Là, on touche à la personne incontournable de la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong, celui qui a popularisé le jazz et le style New Orleans, particulièrement dans le monde entier, pendant des années et des années. Voilà, en plus c'est très bien parce qu'on vient d'écouter Armstrong, on vient d'écouter aussi King Oliver. Il faut dire que dans l'orchestre de King Oliver, et dans le morceau qu'on vient d'écouter, il y avait aussi Armstrong, puisque Armstrong a fait partie de l'orchestre de King Oliver, King Oliver étant finalement le maître d'Armstrong, hein. Voilà, donc Armstrong a beaucoup appris de son jeu de cornet à l'époque et de trompette qu'on a appelé trompette plus tard, qui sont deux instruments un tout petit peu différents, mais enfin presque rien. Et donc voilà, il a beaucoup appris avec King Oliver. À savoir qu'Armstrong était un, voilà, je vais revenir un tout petit peu sur l'historique, je vais essayer de faire très court. Sur Armstrong, c'était un gamin un petit peu turbulent, on va dire. Et puis aux alentours de 12-13 ans, il a trouvé, ou on lui a donné un pistolet, on ne sait pas trop, il s'est retrouvé avec un pistolet dans les mains, et pour fêter la nouvelle année, il a tiré en l'air, voilà, dans la rue et tout ça. Lui, il pensait pas en faire de mal, sauf qu'évidemment c'était pas l'avis de la police, et en plus il était noir, ce qui n'arrangeait rien. donc il s'est vite fait alpaguer. Et puis on l'a mis en maison de correction. Le côté un peu bénéfique de ce passage en maison de correction, c'est qu'il a trouvé là-bas quelqu'un qui s'occupait de lui et qui finalement jouait du cornet et qui lui a appris à jouer du cornet et qui lui a appris aussi les rudiments du solfège. Voilà. Donc dans cette maison de correction, il est ressorti avec un cornet. Il savait un petit peu comment on en jouait. Et il était extrêmement doué. Mais vrai, quand on dit extrêmement, c'est extrêmement doué. Voilà, donc, il était encore adolescent, qui s'est fait remarquer par tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Il a commencé à jouer sur les riverboats, hein, sur le Mississippi, dans les bars, il chantait un petit peu, il jouait un petit peu. Et puis, il s'est très vite fait remarquer par King Oliver, dont on vient de parler. Et il s'est fait embaucher dans son orchestre comme deuxième cornet. Hein. Il a très vite dépassé son maître. ça a été très très vite. King Oliver lui donnait finalement tous les chorus à faire. Et ce qu'on appelle les chorus, c'était dans les solos, hein, les solos improvisés. Donc il lui donnait tout ça à faire. Il faisait un travail considérable. Et puis après, il a fait toute sa carrière. Je ne dis pas tout le monde connaît, parce que c'est vrai que les jeunes, on n'entend plus tellement maintenant de jazz traditionnel. Donc ce n'est pas facile que cette musique se fasse connaître. Mais vraiment, il a fait une carrière avec presque un concert par jour pendant des dizaines d'années. Hein.
Quand même.
Il est même passé à Évreux. Donc, il a fait vraiment le monde entier. Hein, vraiment le monde entier. Il avait un sens musical inné, incomparable. Quoi. Et il a surtout sorti la trompette qui, à son époque, était un instrument complètement... on jouait de ça, c'était très militaire, quoi, hein, très basique. Lui, il a une technique d'enfer. Il montait dans l'aigu, il descendait dans le grave, il glissait des notes. Il faisait absolument ce qu'il voulait. Il avait un sens de la mesure et des accords qui défilaient derrière. Il faisait tout ce qu'il voulait là-dessus en improvisant. Et vraiment, c'est devenu le musicien incontournable de la Nouvelle-Orléans et aussi le musicien représentatif des Noirs, finalement. Les Noirs ont très vite acheté ses disques. Hein, puisqu'on n'a pas tellement parlé du disque, mais... Je voulais revenir là-dessus, c'est que finalement, le jazz s'est aussi développé très très vite parce que le phonographe a été inventé et donc le disque a parcouru, s'est vendu dans le monde entier et ces disques sont vendus dans le monde entier.
Il y a eu des enregistrements comparés aux premières émissions qu'on a faites. C'est vrai qu'il n'y avait pas cette apparition du disque.
Records, là, ce qu'on appelait, c'était des enregistrements uniquement de musique noire et ont été faits dès les années 1910. Quoi.
D'accord. Donc il y a cette apparition-là, d'accord.
Voilà, il y a cette apparition-là, c'est vraiment ce qui a transporté le jazz dans le monde entier, et très très rapidement finalement, quand on voit l'histoire de cette musique, même avec des styles très différents, elle est vraiment fulgurante, quoi. Ça va très vite, et on l'a entendu aussi tout à l'heure, juste et je finis là-dessus, on a entendu Louis Armstrong chanter, Tout le monde connaît un peu sa voix, Louis Armstrong, très rauque, qui a un trait cassé et tout ça. Faut dire aussi qu'il a, pour la petite légende du jazz, alors bon, c'est un peu controversé, mais il a aussi inventé le scat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le scat, c'est finalement chanter avec des onomatopées, c'est-à-dire improviser à la voix avec des onomatopées, c'est-à-dire ça veut rien dire, c'est des, voilà, c'est des onomatopées, et on improvise comme ça à la voix. Donc, pour la légende du jazz, c'est Louis Armstrong l'inventeur de ce style de chant hein, qu'on appelle le scat. Bon, c'est un petit peu controversé, mais voilà.
On dira bien, des fois, au lieu de dire n'importe quoi, alors voilà. C'est aussi bien.
Voilà. Donc, on dira que c'est lui, on va dire. Voilà.
Voilà, on dit que c'est lui.
Moi, je voulais juste ajouter une petite anecdote pour comment Louis Armstrong. Il faut savoir qu'il voyageait beaucoup hein, partout dans le monde, justement, pour faire ses concerts. Et donc, dans les années 50, Richard Nixon, qui était alors vice-président des États-Unis, croisa l'artiste dans les salons VIP hein, de l'aéroport de Paris. Et donc, il lui avoue là, être son plus grand fan et il lui assure que voilà, s'il a besoin de quelque chose, s'il peut lui rendre un service, voilà, il peut lui demander tout ce qu'il veut. Et donc, à la descente de l'avion, Armstrong lui demande de l'aider à porter ses étuis de trompette. Et en fait, ces étuis de trompette, ils étaient remplis de marijuana. Hein. Et donc, ils passèrent ainsi tranquillement la douane sans problème, puisque c'est Nixon en personne qui lui portait ses valises.
Aïe, ça fait des ordres.
Voilà. Donc là, on va peut-être passer une petite chronique de Jean-Paul.
Hein, avec voilà, grand plaisir.
On va pas... Alors donc, où il tente d'imiter la voix de Louis Armstrong. Hein.
Il est la mémoire de l'histoire dans...
La chronique éclectique de Jean-Paul.
Le gaz me rappellera toujours beaucoup de beauté et de chaleur. Eh oui, c'était ma vie et je n'ai absolument pas honte. Mary Warner, chérie, pour sûr, t'étais bonne.
Propos de stars, articles, anecdotes, on vous dit tout dans...
La chronique éclectique de Jean-Paul.
Alors, on arrive dans les années folles, là, à Chicago, hein, dans les années 1926. Il faut savoir qu'on a recensé plus de 24 000 clubs et bars licenciés ou clandestins. Hein. Et donc, à New York, hein, c'est l'âge d'or du Cotton Club, Harlem. Et puis, bien sûr, hein, je rappelle que la mafia avait bien sûr investi ce business du divertissement au grand bénéfice du jazz, d'ailleurs, parce que cela permettait aux musiciens noirs de travailler dans les clubs, les cabarets, les soirées privées. Et malgré la légalité de la marijuana, les jazzmen se retrouvèrent dans le camp de l'illégalité à cause de leur dépendance d'une part envers les gangsters comme fournisseurs de travail réguliers et puis bah, d'autre part parce que en tant que grand consommateur de produits. Hein. La mafia a prêté aux musiciens de l'argent à des taux d'intérêt faibles, leur donnait des conseils sur les investissements, comment l'accès aux drogues bien sûr, et carte blanche avec leurs projets pour les activités secondaires, ce qu'ils voulaient mettre, etc. Tout à l'heure, on a parlé de Jerry Roll Morton, qui vendait aussi de la drogue hein, et qui faisait travailler des prostituées. Et on proposa même à Duke Ellington une grande opération de contrebande. Hein. Et c'est à partir de ces années-là bah, que les musiciens furent arrêtés hein, pour des délits concernant notamment la marijuana. Et donc, il faut savoir qu'à cette époque, il y avait un syndicat hein, des musiciens. Et pour pouvoir jouer, il fallait avoir une carte de musicien. Indispensable hein, pour jouer dans les clubs. Et les policiers, évidemment, bah, retiraient les cartes hein, des musiciens lorsqu'il y avait des problèmes et donc ils ne pouvaient plus jouer. Donc, c'était une époque quand même assez tendue. Hein, et même des musiciens très célèbres hein, devaient surveiller souvent leurs arrières. Et ainsi, quand Louis Armstrong changea de manager, il se retrouva entouré d'une garde du corps jour et nuit pendant des mois. Hein. Et Fletcher Anderson ou King Oliver, ils déclinèrent rapidement après qu'ils eurent perdu les faveurs de la mafia. Et donc, voilà. Donc là, donc on voit tout ça hein, dans un certain nombre de films hein, qui traitent de ce sujet. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, là, et donc, pour peut-être finir...
Malheureusement.
Voilà, malheureusement.
Ça passe vite.
Donc, on aurait pu encore parler de tout un tas de gens, hein, comme Mes Bezro, qui n'était pas forcément un grand musicien, mais qui était par contre un grand consommateur de marijuana, et qui s'est trouvé un peu l'intermédiaire, et aussi un des premiers jazzmen blancs, hein, voilà. Et donc, à faire aussi le lien avec tout un tas de musiciens, surtout par rapport donc à cette vente, vente de marijuana. Donc là, on va peut-être faire un dernier petit morceau. Alors, je sais pas, je laisse ça à Gérard choisir le dernier morceau qu'on va écouter.
Ça va être un choix difficile.
Ah ouais, un peu tranché là. Hein.
Là, voilà.
Un peu pris au dépourvu. Non, je pense que ben, finalement, avec ce qu'on avait prévu un petit peu, je pense puisque tu viens de parler de Mesmero, il serait intéressant de l'écouter en duo avec un musicien aussi très important de la Nouvelle-Orléans, qui a été très connu en France puisqu'il a fait une partie de sa carrière en France. C'est Sidney Bechet. Donc Sidney Bechet a joué avec Mesmero, un très beau morceau qui s'appelle Really the Blues. Hein, encore un petit tour vers le blues.
Ça tombe bien, on l'a en playlist. Nickel.
Voilà, bah, impeccable. Donc voilà, bah, si on écoutait ça, c'est très beau. Voilà.
Et bien alors, on va s'écouter ça.
Voilà,
pour toujours terminer, dans l'émission Rock and Roll.
L'émission. Donc vous êtes sur Drug and Roll, vous écoutez Mesmero et Sidney Bechet hein, dans ce très beau morceau qui s'appelle Really the Blues. Et bah voilà, nous avons été contents de passer cette heure avec vous et de vous retrouver dans une prochaine émission
qui très bientôt. Ça sera quoi cette prochaine
Alors la prochaine émission, on va parler comment des big bands et des grandes chanteuses de jazz.
Très bien, merci. Moi je remercierai les fidèles, Jean qui a pas trop pris la parole, mais on te remercie.
C'était très bien, très bien. Les discours sur le Louis Armstrong étaient parfaits. Ouais, moi, j'aurais quand même peut-être ajouté quelque chose. En plus de son génie musical, c'était un garçon très intelligent, Armstrong. Il a compris qu'il fallait être très, très tempérant avec les Blancs. Et il a joué la carte de l'oncle Tom. Et il a eu un impresario qui était Joe Glaser, qui était un impresario fabuleux. Et grâce à ça, il a été mondialement connu. C'est très important. Ça fait partie de l'histoire du jazz.
Merci, Jean. Merci à toi, Florence.
Merci.
Et puis, Jean-Paul, bah, on n'écoutait qu'une chronique. On en avait enregistré plusieurs. Malheureusement, le temps nous a fait défaut.
Pas de problème.
Bon, très bien.
Et un grand merci à Gérard alors, hein, pour toutes ces fabuleuses explications.
Mais merci aussi.
Et le choix des morceaux.
Merci aussi. Voilà.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Drag and roll.
Oh yeah, drug and roll.
L'émission stupéfiante sur la fusion de la musique et des consommations de drogue.